BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, deuxième heure de Good Evening Business. On est là, on est en direct, bien sûr, jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Plein de choses ce soir encore, à commencer par ce temps fort. Ça sera la nuit prochaine aux États-Unis, à Atlanta. Pour le coup, ce premier débat de la campagne présidentielle américaine entre Joe Biden et Donald Trump, débat au cours duquel on va plus se soucier de l'état de santé de ces messieurs que de leur programme. On va retrouver Antoine Delard qui est sur place à Atlanta dans un instant, puis on va en parler avec nos experts, ils seront là dans un quart d'heure.
Et oui, alors avec eux, nous allons aussi parler de l'inquiétude des petits patrons à l'approche des élections, donc les patrons des TPE et des PME, qu'ils disent clairement, leur priorité du moment, ce n'est plus telle ou telle baisse d'impôts, mais plutôt l'ordre public et la stabilité politique, donc ça en dit long sur l'état d'esprit. Et puis on fera le constat que finalement dans cette campagne on a parlé de beaucoup de choses, mais très peu, voire pas du tout, de lutte contre le chômage. C'est un thème qui est resté relativement absent des débats.
Quand on y pense, oui, c'est quand même assez incroyable. Qui sera avec nous pour parler de tout ça? On sera avec le communicant Cyril Lachèvre, avec l'économiste atterré Henri Sterdignac et avec le directeur du think tank libéral Nicolas Marquez. Tout ça jusqu'à 20h, bien sûr, en direct.
Voilà, ça nous promet un débat animé.
Good Evening Business, le journal.
Donc, bah oui, ça sera l'événement de la nuit prochaine aux États-Unis, le premier débat de la campagne américaine entre Joe Biden et Donald Trump, un peu plus de 4 mois de l'élection. Bonsoir Antoine Lard, vous êtes à Atlanta, c'est là que va se dérouler ce fameux débat, débat qui sent déjà un petit peu la poudre, Antoine.
Oui, absolument, parce que les deux hommes se détestent et ne s'en cachent pas. On s'attend donc à des échanges extrêmement musclés ce soir, avec d'un côté Donald Trump qui va attaquer Joe Biden sur son âge, 81 ans, en disant qu'il n'est pas apte à diriger le pays et encore moins à rempiler pour un nouveau mandat. La campagne de Trump d'ailleurs a déjà donné le ton ce matin en diffusant deux clips qui se moquent de Sleepy Joe et qui mettent en cause ses capacités mentales et physiques. Trump lui-même a déjà commencé les attaques en disant que Biden ce soir aurait besoin d'une piqûre de dopage dans les fesses pour être en forme. Et puis en face, Joe Biden va attaquer Trump en disant que c'est un apprenti dictateur, un danger pour la démocratie. Donc le ton est donné à l'image de cette campagne finalement qui est une campagne très négative. C'est vrai qu'on mobilise contre Joe Biden ou contre Donald Trump, mais pas pour un projet. Alors pour éviter que ce face-à-face tourne au pugilat, des règles très strictes ont été imposées et il n'y aura pas de public pour éviter les débordements et puis interdiction de se couper la parole. Les micros des candidats seront fermés quand ça n'est pas à leur tour de parler.
Il faudra bien ça effectivement pour maintenir un petit peu de calme. Merci beaucoup Antoine Lard donc à Washington. Débat que vous pourrez suivre à 2h15 notamment chez nos confrères de BFM TV avec un débrief bien sûr dans la foulée. On est à un peu plus de 4 mois et demi de cette élection présidentielle américaine. En France, les législatives 3 jours avant le premier tour, la CPME sort du bois. Bonsoir Thomas Asportas.
Bonsoir Guillaume.
Avec cette étude qui nous dit quoi? Que pour un patron sur trois, la priorité désormais c'est quoi? C'est l'ordre public, c'est la stabilité politique. On est très très loin de ce qu'était leur priorité avant l'annonce de la dissolution, Thomas.
Oui, c'est très frappant, Guillaume, parce que depuis des mois, voire même des années, quand vous prenez toutes les enquêtes de conjoncture réalisées auprès des chefs d'entreprise, les sujets qui revenaient inlassablement en tête de liste, c'était les difficultés de recrutement et les difficultés de financement. Mais dans cette enquête que la CPME a publiée ce matin et réalisée après l'annonce de la dissolution, les préoccupations ont changé de façon spectaculaire. La stabilité politique est devenue une priorité pour 35% des chefs d'entreprise et le maintien de la paix civile, ce sont le mot que les patrons emploient eux-mêmes avant même qu'Emmanuel Macron parle de menace de guerre civile, le maintien de la paix civile est le sujet numéro 1 de 29% des sondés. Donc ces chiffres en disent long sur l'inquiétude des patrons, inquiétude d'un blocage de la vie politique, inquiétude de débordement qui toucherait leur entreprise. La baisse de l'activité économique est d'ailleurs la préoccupation numéro 1 de quasiment la moitié des petits patrons. Au-delà de leur activité, ces chefs d'entreprise se montrent aussi inquiets pour l'état du pays et de ses finances. 78% d'entre eux considère qu'une hausse excessive des dépenses conduirait la France à la faillite et à une mise sous tutelle du FMI. Et enfin, les petits patrons, on peut le dire, ont choisi leur camp. Ils jugent que le programme économique du nouveau Front populaire est le plus inquiétant, le plus menaçant. 58% d'entre eux reporteraient leur projet d'investissement ou de recrutement en cas de victoire de la gauche, contre 36% pour le Rassemblement National et 12% pour la majorité présidentielle.
Étude réalisée entre le 20 et le 24 juin, donc c'est vraiment la semaine dernière, effectivement. Mmh. C'est très intéressant. Voilà pour l'état d'esprit des patrons. On en reparlera bien sûr, notamment avec Jean-Hugues Duménil, secrétaire général de la CPME, qui sera avec nous tout à l'heure aux alentours de 18h35 sur BFM Business. Merci beaucoup. Merci. Thomas. Et puis alors, c'était en France toujours, c'était attendu, c'est fait en plein milieu de cette campagne. Ça y est, le décret portant sur la réforme de l'assurance chômage est paru aujourd'hui au Journal officiel. Les syndicats dénoncent un déni de démocratie. Mais même beaucoup de petits patrons, d'après la CPME, n'y sont pas favorables non plus, aussi incroyable que ça puisse paraître. Ça aussi, on en parlera tout à l'heure avec le secrétaire général de l'organisation patronale. 18h04, dans l'actualité des entreprises. Et ben, en pleine campagne, justement, c'est une opération qui n'est pas passé inaperçu, qui a été annoncé ce matin. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
L'État rachète, alors en partie, l'ancienne division de câbles sous-marins d'Alcatel, qui était détenue par Nokia. On parle d'actifs hautement stratégique, c'est un euphémisme, Mathieu.
Oui, exactement. Il en rachète 80%. Donc, cette société, certes petite, 1200 salariés, mais quand même 1 milliard de chiffre d'affaires, est donc nationalisée. Et pourquoi ? Parce qu'elle, effectivement, conçoit et pose surtout des câbles sous-marins entre la France et plus généralement l'Europe et les autres continents. Alors évidemment pour des clients des entreprises, on va dire classiques, et notamment les opérateurs télécoms, mais aussi pour l'armée, pour le ministère de la Défense, et qui en profite, en tout cas c'est ce qu'on nous dit en interne, puisque par définition ce n'est pas confirmé, mais en tout cas le ministère des Armées utilise notamment ces câbles pour capter des données, écouter des télécommunications, et donc cette activité est stratégique aujourd'hui encore plus depuis la guerre en Ukraine. C'est pas très nouveau, mais cela c'était devenu très sensible. Vous savez, c'est une ancienne filiale d'Alcatel, et quand Alcatel avait été vendu à Nokia en 2015, il y a près de 10 ans, à l'époque il y avait un ministre de l'économie qui s'appelait déjà Emmanuel Macron et qui avait voulu que cette société soit préservée. Alors il a essayé de la vendre à Orange, qui n'en a pas voulu, puis à Thales, qui n'en a pas voulu, BPI France non plus, bref, à la fin des fins, personne n'en a voulu, et donc c'est l'État qui, non pas vole à son secours, parce que cette société est profitable, elle réalise environ 3% de marge, mais remet la main dessus, car cette activité, encore une fois, est hautement sensible pour le ministère des Armées.
Mais sa vocation à rester dans le giron de l'État, ou en tout cas retourner vers un groupe, enfin, c'est une question sans réponse, effectivement.
Ils ont passé 10 ans à ne pas réussir à adosser un industriel français, donc a priori ça va rester dans le giron de l'État pendant de nombreuses années. Bon. La donne a changé avec la guerre en Ukraine, véritablement.
Et ça arrive bien sûr à 3 jours du premier tour, donc on avait...
Oui, et 10 jours après que l'État a également racheté les activités dédiées à la défense d'Atos, donc il y a vraiment une reprise en main des activités liées au secteur de la défense.
Et bien voilà pour cette opération donc annoncée ce matin. Merci beaucoup Mathieu Pechberti avec nous. Des nouvelles de Casino, visiblement on s'est mis d'accord hier soir en interne sur les grandes lignes du plan social qui va concerner, alors on ne sait pas, entre 1300 et 3200 salariés. On s'est mis d'accord avant une nouvelle audience qui était prévue ce matin devant la cour d'appel de Paris. Et puis alors encore des soucis chez Boeing, sauf que cette fois c'est pas dans les airs, c'est carrément dans l'espace. Il y a 3 semaines, vous vous en souvenez, peut-être Boeing avait réussi à envoyer sa capsule Starliner vers l'ISS avec à bord 2 astronautes. La mission devait durer 8 jours, mais elle a été prolongée jusqu'à nouvel ordre, car Starliner apparemment à des soucis techniques. Jean-Baptiste Huette.
Coincés dans l'espace, Butch et Sunny, les 2 astronautes de la NASA, devaient rentrer hier après avoir passé une 20aine de jours dans la Station Spatiale Internationale. Raté, ce ne sera pas avant début juillet au plus tôt. Starliner, la capsule de Boeing, continue d'enchaîner les déboires techniques, fuite d'hélium, panne des propulseurs pendant la phase d'amarrage à la station spatiale. Boeing a tenté de rassurer, expliquant que les fuites d'hélium sont courantes et que 95% des missions vers l'ISS ont des problèmes de ce genre. La NASA indique toutefois que les conditions ne sont pas encore réunies pour ramener en sécurité les 2 astronautes. L'agence spatiale américaine souhaite mettre ce temps supplémentaire à profit pour étudier plus en détail la capsule afin de mieux comprendre comment les problèmes ont pu survenir. Ces nouvelles déconvenues ont valu à Boeing une salve de critiques. Le programme Starliner accuse déjà de nombreuses années de retard. Certains évoquent déjà le recours au chevalier blanc de l'espace, SpaceX, qui pourrait, si besoin, voler au secours des 2 astronautes avec sa capsule Crew Dragon.
Voilà, des soucis encore pour Boeing. Jean-Baptiste Huette avec nous sur BFM Business. 19h10, on retourne sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la clôture à la bourse de Paris, le CAC 40 ce soir, qui a terminé En baisse d'1%, 7530 points. Nous paraissent loin les 8000 points. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
Nous paraissent loin les 8000 points d'un seul coup là, à la bourse.
Bah, c'était juste avant l'annonce d'Emmanuel Macron sur les législatives, donc il y a quasiment 3 semaines.
On verra ce qu'il en reste dans 10-15 jours, évidemment. Et à Wall Street, pendant ce temps, comment ça se passe?
Bah écoutez, c'est du vert. Alors, c'est marrant parce que je regardais encore il y a un instant CNBC. Alors, il parle des stress tests aux États-Unis, il parle du S&P. Et puis, alors, vous avez la photo de Jordan Bardella, vous voyez.
Ah bon?
Quand même, la première chaîne économique aux États-Unis. Ça passe avant le débat de ce soir entre Joe Biden et Trump. Hein. Donc, c'est quand même assez amusant de voir que la politique française continue de se diffuser. Et on l'a vu, on en parlait il y a une heure, hein, le spread, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne continue de s'écarter. Ouais, hein, 82 points de base sur des plus hauts de 3 semaines quasiment. Donc ça, c'est pas bon signe. Hein, ça sera à surveiller demain et puis surtout lundi à l'issue du premier tour. Bon, du côté de Wall Street, ça se passe bien. Hein, contrairement à Paris, c'est du vert sur les 3 indices américains. Toujours l'intelligence artificielle qui porte la cote d'un côté comme de l'autre. Hein, Micron perd 5%, mais de l'autre côté, vous avez Amazon qui a franchi hier soir pour la première fois la barre des 2000 milliards de valorisation boursière parce qu'Amazon ne gagne pas d'argent quasiment pas sur le e-commerce mais sur AWS, hein, le service de cloud qui forcément tourne à plein régime avec l'intelligence artificielle. Dans un mois, ça y est, on aura les résultats du premier semestre. Bon, les entreprises qui communiquent en ce moment sont quand même hyper prudentes. Hein. Vous avez Levi's qui perd 16%, hein, le consommateur qui fait des choix, hein, en ce moment il ne se rhabille pas donc ils revoient à la baisse leur objectif. H&M tout à l'heure à Copenhague perdait 10%, et puis alors vous avez également Walgreens, vous savez c'est une chaîne de pharmacie aux États-Unis qui perd quasiment 20% avec là aussi un discours très prudent en disant le consommateur américain il n'est pas vraiment là, sa priorité c'est pas d'acheter des produits pharmaceutiques, donc suite à cela vous avez ce titre qui est en forte baisse sur des plus bas de quasiment 25 ans ce soir. Mais bon, c'est une toute petite valeur, 10 milliards donc à l'échelle de Wall Street ça n'a pas d'impact sur les 3 indices américains.
Non mais c'est révélateur d'un climat ambiant quand même à quelques mois d'une élection présidentielle. Merci beaucoup Étienne Brack avec nous sur BFM Business. 19h13, on vient avec Audrey dans un instant puis nos experts, on a beaucoup de choses ce soir. La CPME qui s'engage dans le débat avec une étude qui est quand même lourde d'enseignement, on va revenir là-dessus. On remarquera qu'on parle de beaucoup de choses dans cette campagne électorale en France, mais qu'on ne parle pas d'emploi. On ne parle plus de lutte contre le chômage, qui est quand même assez intéressant. On parlera du débat Trump-Biden. Et puis Emmanuel Macron ce soir à Bruxelles, qu'est-ce que ses homologues européens vont lui demander à 3 jours du premier tour des élections législatives? Ça en fait des questions. On est là jusqu'à 20h, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, il est 19h17, on est revenu sur Good Evening Business en direct jusqu'à 20h, bien sûr. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, avec nous jusqu'à 20h et nos experts, ils sont là. Henri Sterdignac est avec nous. Bonsoir Henri.
Bonsoir Guillaume.
Économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés, Cyril Lachèvre. Bonsoir Cyril, fondateur de l'agence de communication Silence. Nicolas Marquez est avec nous. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue,
Guillaume.
Directeur général de l'Institut Molinari. Beaucoup de choses encore à 3 jours du premier tour. Les petits patrons qui sortent du bois. Donc c'est la CPME qui a sondé, sondage qui est sorti ce matin, qui a sondé ses adhérents. Là, c'est tout récent, du 20 au 24 juin, et ce que nous dit l'étude est quand même assez frappant, Audrey.
Oui, puisque un patron sur 3 dit que pour lui, la priorité désormais, c'est l'ordre public, c'est-à-dire la stabilité politique. C'est ce que nous disait d'ailleurs tout à l'heure Jean-Eudes Duménil, le secrétaire général de la CPME. On l'écoute tout de suite et on en débat juste après.
Ça dénote clairement une inquiétude des chefs d'entreprise. Ce sont des questions qu'on pose régulièrement dans un baromètre de conjoncture, questions traditionnelles hein, sur l'inquiétude, est-ce que c'est le carnet de commandes, est-ce que c'est plutôt le financement, est-ce que c'est le prix de l'énergie, enfin toutes ces préoccupations habituelles des chefs d'entreprise. Et effectivement, cette fois-ci, on a rajouté 2 questions, l'une sur l'instabilité politique et l'autre sur ce qu'on a appelé le maintien de la paix civile. Les mots sont assez forts. Et effectivement, ce sont les préoccupations qui arrivent aujourd'hui en deuxième et en troisième position dans l'esprit des chefs d'entreprise. Donc il y a vraiment une inquiétude extrêmement forte qui est finalement pas très étonnante parce qu'on est dans une situation d'incertitude à peu près totale sur ce qui va se passer. Et par contre, on sait qu'il y aura des conséquences économiques. Donc, du côté des chefs d'entreprise, il y a une incertitude et il y a une forme d'attentisme aussi.
Bon, c'est quand même assez unique, en effet, de voir la paix civile à l'agenda d'un sondage pour les patrons, Nicolas.
Oui, c'est assez unique. Mais on est dans une configuration assez unique. Donc oui. Là, c'est la grosse nouveauté. Et c'est vrai que le business, en général, il a besoin de calme. Les patrons demandent de la régularité fiscale, de la régularité réglementaire. Et là, on a un nouveau handicap. Il y a une inquiétude sur la paix civile. Alors après, il y a des choses très classiques dans ce sondage. Il y a notamment une question qui m'a intéressé, c'est la question sur le salaire minimum. Il y a un programme qui, celui de la gauche, qui vise à porter le salaire minimum à 1 600 euros net par mois. Donc, c'est
que disent les patrons. Nicolas, on va parler des mesures vraiment. Ouais. Mais juste quand même une petite assise encore là-dessus. La paix civile, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise, aujourd'hui, ma préoccupation, c'est plus la baisse de taxes, c'est de savoir si je vais pouvoir continuer à bosser ou s'il va falloir que je me barricade, comme ce qu'on a connu du temps des gilets jaunes finalement. C'est quand même une question aberrante, quoi. Je veux dire.
Oui, mais c'est le résultat de la polarisation.
Est-ce que dans 10 jours, je vais devoir barricader, mettre des planches et des clous, quoi. Voilà, c'est ça, les patrons aujourd'hui.
C'est pas nouveau, hein. C'est un long processus. Les patrons, déjà, dans les périodes de. Les patrons, notamment des grandes villes, dans les périodes de grève, les grèves sur les retraites ou autres,
avaient exprimé
cette crainte. Là, c'est un niveau puissance 3.
Et est-ce que le fait qu'Emmanuel Macron ait utilisé il y a très peu de temps, quelques jours, les mots de guerre civile n'a pas mis de l'huile sur le feu?
Alors si vous m'autorisez juste un trait d'humour, Jean-Eudes Duménil, le secrétaire général de CPME, était dans sa voiture quand il vous a répondu là, comme on le voyait. Donc on espère qu'il n'était pas en train de
quitter la France. Non,
c'est pas qu'il conduisait. Il n'était pas en train de quitter la France. Alors, ça on ne sait pas.
Mais plus sérieusement, moi, de ce que je vois, de ce que j'entends autour de moi depuis 10 jours, c'est un arrêt total de toute commande, de tout financement, de toute opération. Alors d'un point de vue macroéconomique, j'allais dire, c'est pas très grave, on va perdre un gros mois très important en juin, donc en gros on est parti pour perdre un trimestre, bon, on pourra s'en remettre dès le lendemain, mais enfin je veux dire, donc déjà spontanément
juillet août, attention à cause des jeux, donc
oui, non, mais ce que je veux dire, bon, il y a cet aspect là mais qui, mine de rien, quand on est un petit patron, est pas négligeable, donc entretient certains sentiments de peur. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit, Audrey, quand on a un président de la République qui agite ce genre de menaces qui par ailleurs sont alimentées par les réseaux sociaux et par certains extrémistes de part et d'autre. Et on sait aussi, pour terminer, dans certaines entreprises, qu'il y a un petit réveil de la CGT en ce moment, depuis quelques jours, comme par hasard, sur des négociations salariales, des menaces de grève générale. Donc il y a effectivement, très concrètement, des signaux vraiment inquiétants à cet égard.
Henri, qu'est-ce que ça vous inspire, avoir des patrons qui disent je ne sais pas, en fait, mon inquiétude, c'est de savoir si je vais pouvoir bosser, ou si dans 10 jours, ça va être la croix et la bannière pour bosser dans mon entreprise?
D'abord, en tant que statisticien, je déteste qu'on change le texte des questions et qu'on rajoute deux items qui figuraient pas dans les périodes précédentes et qui naturellement ça biaise un peu.
Oui, on n'a pas de
ça biaise un peu. Ça biaise un peu le résultat. On voit avec plaisir que les patrons ne sont plus inquiets sur l'embauche, qu'ils sont plus inquiets sur le prix des matières premières, et que du coup ces deux nouvelles items ont réussi à obtenir beaucoup de suffrages. Les patrons sont également inquiets, il faut le noter, en priorité sur la baisse d'activité. Bon, c'est quand même intéressant à noter. Alors bien sûr, si vous pensez que l'idéal c'est les affaires comme d'habitude, vous pouvez être inquiet. Si vous êtes à l'une ou l'autre extrémité du spectre économique, vous pouvez vous dire, après tout, ça vaut le coup un ou deux mois de perturbation pour reprendre une bonne direction.
Ça dépend de la nature des perturbations.
Pour reprendre une bonne direction.
Henri, ça dépend de la nature des perturbations quand même. On ne sait pas ce qui risque de se passer malheureusement au soir du 7 juillet en France, en fonction du résultat de l'élection quand même. Donc, gardez un œil sur ce qui peut arriver.
Bien sûr, il y a une dramatisation qui...
Dramatisation, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Enfin, je sais que c'est vrai que dans certains endroits, on recommande de ne pas déposer ses poubelles le soir du second tour, etc. Oui, etc. Non, mais quand on entend ce genre de choses, forcément, quand on est un petit patron avec un petit local, etc., ou même à pas de porte, on ne peut que s'inquiéter. C'est légitime.
Mais la raison pour laquelle c'est quand même important, justement, de regarder dans le détail les réponses à ce sondage, c'est que je rappelle que la CPME, c'est des millions de TPE et de PME françaises, que c'est 80% du tissu économique économique français, et que donc, enfin, c'est pas une opinion comme une autre. Et quand ils disent, ils sont quasiment 80% à craindre une mise sous tutelle de la part du FMI si jamais l'extrême gauche arrivait au pouvoir, ça donne quand même le sentiment d'extrême inquiétude.
C'est pas du fantasme, ça, Henri, attendez.
D'accord, mais c'est... C'est une question qui est orientée de manière à avoir effectivement la question. Les gens, a priori, ne se posaient pas la question. Est-ce qu'on a le FMI à la porte? À partir du moment où on leur dit « Est-ce que vous craignez pas que le FMI soit à notre porte ?» Effectivement, un grand nombre vont répondre « Oui ».
Bon, non, mais la question, elle n'était pas biaisée, Nicolas.
Il y a cette question que rappelait Audrey. Et moi, j'en ai vu une autre. Si le salaire minimum passe à 1600 euros net, qu'est-ce que vous faites? Il y a 90% des patrons qui disent qu'ils vont reporter le coût sur les salariés ou les consommateurs. Il y a 14% qui disent on cesse notre activité.
Et 27% qui disent je licencie. Je licencie une partie de mes salariés.
Et 50% qui disent j'espère récupérer ça sur mes consommateurs s'ils acceptent de payer plus.
Oui.
Et il y a seulement 10% qui disent vous inquiétez pas, j'absorberai ça dans mes marges. Ça, c'est bien connu des économistes, c'est ce qu'on appelle l'incidence fiscale. Oui. Quand on augmente la fiscalité ou quand on crée des réglementations, et ben, à la fin, il faut passer le coût à son voisin. Les patrons sont assez classiques. Il y a un truc qui m'a paru moins classique dans ce sondage de la CPME, c'est 70% des patrons ne sont pas opposés à une indexation des pensions sur l'inflation.
Oui.
Alors, l'indexation des pensions sur l'inflation, quand on est retraité, ça paraît tout à fait compréhensible. Mais quand on gère un régime de retraite, le régime de retraite, il a des comptes qui dépendent du ratio cotisant par retraité. Oui. Si vous avez moins de cotisants et plus de retraités, vous ne pouvez pas servir l'inflation et vous ne pouvez pas indexer votre pension sur l'inflation sans faire des déficits. Alors, il y a des endroits où c'est indexé, dans l'État, parce que l'État, il prend les déficits en termes de retraite, et dans le régime général, mais si vous êtes dans les régimes complémentaires, vous ne pouvez pas indexer si votre démographie n'est pas au rendez-vous. Donc là, j'étais surpris. Je me suis dit que les patrons, autant ils raisonnaient très bien sur l'incidence pour eux sur leur compte, autant en tant que gestionnaire de caisse de retraite, ils étaient plus caricaturaux. Et il y a un troisième truc.
Les patrons ont un certain âge, donc ils vont bientôt, un certain nombre vont bientôt prendre la retraite, et donc ils sont préoccupés du niveau de leur retraite, et que par ailleurs, peut-être que les patrons qui sont extrêmement subtils voient bien la différence entre le fait de réduire les retraites du fait d'une mauvaise indexation et le fait de structurellement avoir une évolution nécessaire du ratio entre retraite et pension.
Alors moi j'ai une lecture différente, je pense que les patrons ils connaissent leur compte de résultats et donc ils voient l'incidence de l'augmentation du SMIC parce que clairement, c'est un geste généreux mais qui en fait dans les faits crée de la casse et quand ils regardent les régimes de retraite ils ne sont pas gestionnaires de régimes de retraite et ils ne comprennent pas que indexer c'est généreux, mais ça creuse les déficits.
Mais oui, c'est 1600 euros, c'est un raz-de-marée pour les entreprises.
Évidemment, oui.
Oui, et puis moi, ce qui m'a plus intéressé, c'est qu'il y a 58% des chefs d'entreprise qui reporteraient leur projet d'investissement si le Front Populaire arrivait, 36% pour le RN qui mène une campagne assez active et discrète. Jordan Bardella reçoit des personnes du RN dans un appartement discret.
Justement, c'est la question que je voulais poser, il reste deux minutes, c'est est-ce que vous avez le sentiment que sur le plan économique, auprès d'une partie, d'une frange du patronat, le RN a peut-être gagné le combat
Non, parce qu'il y en a quand même 36% qui déféreraient leur projet d'investissement, alors qu'ils ne sont que 12 pour Macron. Donc,
mais le choix par défaut, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, en tout cas, il est clair. Non
c'est pas, pour le coup, c'est pas surprenant non plus.
Non, on est d'accord.
Mais ce que vous dites, ils ont fait un peu de chemin, comme ils ont labouré, peut-être du côté des artisans commerçants.
Ils ont une certaine position dans la hiérarchie sociale qui font qu'ils sont naturellement sensibles au discours du RN, en particulier le discours anti-étatiste. Pareil, en sens inverse, un certain nombre ont des travailleurs immigrés dans leurs entreprises et se disent « Mon Dieu, si j'ai plus de travailleurs immigrés, qui est-ce qui va me garder ma porte ?» ou « Qui est-ce qui va venir faire un certain nombre de travail de nettoyage ?» Donc ça également, ça peut jouer. Ce qui serait nécessaire, en particulier pour le nouveau Front Populaire, c'est de bien expliquer comment quelles répercussions il entend de cette hausse du SMIC. C'est-à-dire dire clairement aux petits patrons, effectivement, on augmentera le SMIC, mais vous aurez le droit d'augmenter le prix de vos produits, en particulier les services à la personne, les services aux entreprises, les prix augmenteront.
Bah, il faut dire clairement. Mais en effet, il y a ce sujet-là.
Il faut, il faut dire clairement, le SMIC, actuellement, c'est très peu dans des entreprises, dans les secteurs concurrencés. C'est beaucoup de femmes dont, effectivement, il ne serait pas scandaleux de revaloriser les salaires. Mais en contrepartie, naturellement, ben, il va falloir que d'autres parties de la population acceptent des baisses de pouvoir d'achat.
Oui, et puis attention, parce qu'il faut aussi préciser que c'est forcément, de fait, un frein à l'embauche. Et qui va en pâtir le plus ? Eh ben, les jeunes qui sont forcément les moins expérimentés.
Très vite,
Et c'est un sujet de débat avec Henri, mais on a un problème de vieillissement dans nos finances publiques. Donc, tout le service à la personne, qui est en partie administré ou financé par l'aide de l'État ou des crédits d'impôt, il est paupérisé. Et si on était dans un pays avec plus de capitalisation collective ou de capitalisation...
Henri va pas être d'accord.
Vous avez moins de mal à financer le service à la personne. Vous allez en Suisse, à la personne est beaucoup mieux valorisé que chez nous.
Le sujet, c'est qu'il faut revaloriser le service à la personne et qu'il faut payer.
Et on n'a pas l'argent pour revaloriser parce qu'on a vieilli. Nos finances publiques étaient adaptées dans les années 74 parce qu'on n'était pas encore à la fin du baby boom. Et depuis, on a du mal. Vous allez en Suisse, vous allez au Danemark, les salaires de service sont beaucoup plus élevés parce que ces gens-là sont en ordre de marche avec le vieillissement.
Oui. Voilà, et ben ça c'est dit. Cyril, pour conclure ?
Non, je voulais terminer juste sur le pourquoi est-ce que peut-être que le RN fait un peu moins peur. Oui. C'est aussi probablement, certainement d'ailleurs, par pragmatisme, parce que les ouvriers votent très très majoritairement RN. Oui. Donc quelque part, moi je serais à la place d'un patron ayant une entreprise industrielle, petite entreprise industrielle, je me dirais que voilà, je serais un peu moins inquiet le lendemain, parce que voilà...
Le RN propose des baisses de charges, baisses de cotisations sociales et non pas des hausses de salaire.
Oui, absolument. Confirme la suppression de la CVAE.
À la fin, la baisse de charges, qu'elle soit patronale ou salariale, elle aboutit à augmenter les salaires nets. Donc il faut arrêter d'opposer. la cotisation sociale, elle est payée in fine par le salarié. Et vous le savez très bien.
Alors, on ne vous mettra pas d'accord là-dessus.
Mais certainement pas. Allez,
mais peut-être pas les petits patrons.
On va repartir dans un instant. Il est 19h30 sur BFM Business. Je vous redonne les grands titres
de l'actualité. Donc, cette étude dont on parlait à l'instant, la CPME, ce chiffre, surtout dans cette étude parue ce matin, un patron sur trois fait de l'ordre public et de la stabilité politique ses priorités nationales. Même si on le disait, effectivement, ces choix ont été rajoutés dans l'étude de la CPME. On en parle à l'instant. Dans l'actualité, à noter cette confirmation, c'était attendu. Le décret portant sur la dernière réforme de l'assurance chômage est paru aujourd'hui au Journal officiel. Les syndicats dénoncent ce soir un déni de démocratie en pleine campagne. Cette opération nationalisation qui n'est pas passée inaperçue, annoncée ce matin, l'État rachète en partie l'ancienne division de câbles sous-marins d'Alcatel, qui était détenu par Noctia. C'est un actif évidemment hautement stratégique. Et puis chez Casino, visiblement, on s'est mis d'accord hier soir en interne sur les grandes lignes du plan social qui va concerner, on ne sait pas vraiment, entre 1300 et 3200 personnes. On s'est mis d'accord avant une nouvelle audience prévue ce matin devant la cour d'appel de Paris. 19h32, on vient dans un instant, bien sûr.
Oui, on continue à parler de la campagne des législatives, et pas que. On va parler de ce sommet européen à Bruxelles, et puis, bien sûr, du premier débat qui va opposer Biden et Trump. Pas tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, les experts du soir sont avec nous, Cyril Lachèvre, Nicolas Marquès, Henri Sterdignac et bien sûr Guillaume Paul. Donc on a fait un constat, Guillaume, hier, notamment en lisant la presse. Donc on parle bien sûr de pouvoir d'achat, on parle d'énergie, on parle de dépenses sociales, on parle feuille de paye, mais par contre on ne parle pas emploi dans cette campagne.
Mais c'est vrai, quand on a vu ça, on s'est dit, ah bah oui, on parle de plein de choses. Alors merci à nos confrères des Échos, tiens, on va le voir si vous nous regardez la télévision, pour nous l'avoir rappelé hier dans un article, en page 2, qui fait remarquer, oui, effectivement, le pouvoir d'achat a tout écrasé dans cette campagne, mais sinon, c'est vrai qu'on ne parle plus de lutte contre le chômage. Même la majorité actuelle ne mentionne plus le retour en plein emploi à 5% en 2027. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de lutte contre le chômage alors que celui-ci est en train de remonter, finalement ? Henri ? Apparemment, les sondages disent que ce n'est plus la priorité des Français, mais enfin, quand même.
D'abord, le... Ensemble, un programme contre le chômage, mais...
qui est la réforme des prestations chômage. Donc quand même, ils continuent à croire qu'en privant les chômeurs d'indemnité, on les forcera à prendre des milliers d'emplois disponibles.
Avec pas d'indemnité, Henri.
De prestations, on leur forcera à prendre...
Décret paru aujourd'hui, donc, pardon.
Oui, voilà, c'est paru aujourd'hui, mais c'est quand même la stratégie du gouvernement. Effectivement, la gauche, elle, est restée fidèle à l'idée on va faire une relance keynésienne, et puis le Rassemblement national est plutôt dans l'idée... Ben, il n'y a pas de problème, on va faire de la préférence nationale. Donc quand même, il y a l'idée que il y a quand même un problème de chômage. Quand on regarde les chiffres, on a quand même 2,340 000 chômeurs au sens BIT. Mais si on étend à l'ensemble du halo du chômage et aux personnes qui travaillent à mi-temps contraint, on reste quand même avec 5 millions de chômeurs, donc le problème existe encore.
Oui, et puis surtout avec des perspectives d'emploi, notamment industrielles, qui sont plutôt inquiétantes. Hein. Quand on regarde les chiffres, on a une hausse attendue du chômage qui pourrait atteindre 8,5%. Et pourtant, sujet complètement absent des débats du moment. Cyril.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec ce qu'a dit Henri. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on ne parle pas de chômage, parce qu'effectivement, il y a encore en latence un débat sur l'assurance chômage. Hein, donc effectivement, entre le Front Populaire et le Rassemblement National qui veulent supprimer le décret qui serait maintenu par Gabriel Attal s'il gagnait les élections. Mais de toute façon, depuis plusieurs années, on fait comme s'il n'y avait plus de problème de chômage. Et j'allais dire même, la faute, elle en vient presque des politiques en responsabilité, que ce soit déjà sous François Hollande et sous maintenant Emmanuel Macron. Moi j'étais très frappé à l'époque par la manière dont on occultait, je vais pas dire trafiquer les chiffres du chômage, parce que évidemment l'institut qui les publie est totalement fiable, donc c'est pas le problème. C'est la manière dont on jouait avec cette espèce de halo du chômage de jeunes en formation,
les
etc.
Donc, oui,
les fameuses catégories A, B, C. Donc
enfin, on a une courbe qui s'est infléchie quand même.
Oui, évidemment. Ouais. Enfin, effectivement, avec plus de 5 millions de personnes sans emploi ou ayant la difficulté à en trouver ou qui ne travaillent pas assez à leur goût, on ne peut pas dire qu'il n'y ait plus de problème de chômage dans ce pays. Donc oui, c'est pour moi un grand mystère.
Tout le monde a l'air de considérer qu'on est au plein emploi, ça y est, là, 7,5% de chômage là, finalement. Est-ce qu'on en était bercé dans l'idée que le chômage structurel en France était 7,5% et que descendre plus bas, c'était...
Bah, oui, mais on n'est pas au plein emploi.
Non, on n'est pas au plein emploi.
Et en fait, le résultat du gouvernement...
Où est-ce que vous le situez, vous, le plein emploi, personnellement, Nicolas?
Moi, ce que je vais vous
conseiller... Zéro chômeur,
c'est par rapport à nos voisins. Pour moi, le résultat du gouvernement, il est mitigé. Le chômage a bien baissé, mais pas assez. Je vous donne des chiffres, les chiffres européens. On a 7,3% de chômage en France versus 6% en Europe. Donc, on a 1,3% en plus par rapport à l'Europe. Ça représente 490 000 chômeurs en trop. Alors, quand Emmanuel Macron est arrivé en pouvoir en mai 2017, pour la première fois, on avait 410 000 chômeurs en trop. Donc, ça ne s'est pas amélioré par rapport à nos voisins européens. Ça s'est légèrement dégradé. Le même chiffre par rapport à la zone euro. Aujourd'hui, le chômage dans la zone euro, alors c'est le dernier chiffre d'avril, il est à 6,4%. Nous, on est à 7,3%. On a 0,9 points en trop, soit 320 000 chômeurs en trop. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, en mai 2017, l'écart, il était trois fois moindre. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La zone euro a repris très significativement et a recréé de l'emploi. Nous, on n'en a pas recréé autant.
Perte de compétitivité française.
Perte de compétitivité française au sein de la zone euro. Et donc, pour moi, ça m'explique pourquoi le gouvernement ne fait pas cocorico. Parce que cette baisse, elle est très significative, mais elle n'est pas pleinement suffisante. Et alors, pour faire un peu de polémique avec Henri, pourquoi ce sujet n'est pas au cœur de la campagne? C'est peut-être qu'on est dans un pays où, en fait, il y a des chômeurs, il y a un niveau d'indemnisation qui est correct. Et donc, ce n'est pas un sujet majeur de pouvoir d'achat. Et le sujet, il est plus politique. Est-ce qu'on fait statu quo sur les règles d'indemnisation de l'assurance chômage, ou est-ce qu'on fait comme le gouvernement une décrue des modalités d'indemnisation en espérant que ça poussera plus de monde vers le marché du travail?
Je veux bien vous entendre sur le fait que la majorité fanfaronne pas forcément sur le sujet, mais pourquoi est-ce que les oppositions justement ne s'emparent pas du sujet de manière plus...
Parce que c'est la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Je pense qu'ils font bien leur boulot en termes de sondage et qu'ils se rendent compte que ce n'est pas un sujet qui aura autant de prise que les autres sujets qu'ils développent.
Mais il faut dire que c'est quand même je vais jouer contre mon camp, c'est quand même un succès pour le gouvernement.
Oui.
On a quand même une baisse importante du nombre de chômeurs, et il y a eu miraculeusement un nombre extrêmement important d'emplois créés.
C'est pas un miracle.
Miraculeusement, Henri, c'est la politique de l'offre.
Parce que ça s'est fait avec une chute importante des gains de productivité. Et puis, il y a une partie de cet emploi supplémentaire qu'on a du mal à expliquer. Bon, voilà,
Vous ne voulez pas dire, Henri, que ce sont les résultats de la politique de l'offre?
C'est un peu les résultats de la politique de l'offre, mais en même temps, ça s'est fait avec un développement des emplois précaires et puis des pertes de productivité du travail.
Cyril Lachèvre.
J'aurais un raisonnement peut-être un peu différent, un peu moins économique et plus politique ou de termes de communication. Effectivement, ce n'est pas un sujet d'inquiétude pour les Français et l'une des raisons...
Sauf quand il est à 10% le taux de
chômage. Oui, alors c'est qu'à mon avis, on raisonne un peu trop... Enfin là, nous, classiquement en stock, il faudrait peut-être raisonner en flux. Je m'explique. Vous avez 40% seulement des Français qui estiment qu'il est difficile de trouver un emploi en cas de perte d'emploi. Ce chiffre, 40% aujourd'hui, il était de 68% en 93. Donc en gros, on se dit, si je suis au chômage, c'est pas très grave, parce que je peux retrouver...
Oui, parce que le marché est dynamique.
Entre guillemets, facilement.
Ouais.
Donc ça, je pense que ça joue psychologiquement quand même, pour que ce soit pas un gros sujet d'inquiétude dans les ménages, et donc sujet pour les hommes politiques. J'ajouterais qu'en même temps, le marché du travail, alors c'est encore quelque chose de diffus qui structurellement évolue beaucoup avec l'émergence des travailleurs indépendants.
Ouais.
Ça ne concerne pas encore des millions de personnes, mais enfin quand même, petit à petit, de plus en plus. Et donc, on a ce petit sentiment que peut-être aussi qu'on peut s'en sortir, même si on est un peu au chômage, mais on peut bricoler par-ci, par-là. Enfin, c'est une tentative d'explication, en tout cas, de mon point de vue, pour lesquels ce n'est pas un sujet politique. Après, ce que vient d'être dit, effectivement, ça reste un sujet économique majeur.
Ouais. Bon. Alors allez-y, Nicolas.
Alors, j'ai un petit débat avec Henri. Pour moi, la baisse du chômage, c'est beaucoup la politique de l'offre.
Oui, oui.
Et il y a une mesure importante qui a été la baisse des impôts de production.
Bien sûr.
Ces impôts, ils tuaient l'emploi en France. Ils poussaient aux délocalisations et ils poussaient aux importations. Ma critique à l'égard du gouvernement, c'est qu'ils ont fait la moitié du chemin. Et on le voit bien dans les chiffres de chômage. Et je pense foncièrement que la meilleure protection contre l'emploi précaire, que fustigeait Henri, c'est le plein emploi. Là où vous avez du plein emploi, ben vous avez moins d'emplois précaires.
Le fait est qu'une grande partie de la hausse de l'emploi, c'est de l'apprentissage et c'est de l'emploi précaire.
Sur le marché du travail.
Et si. Et c'est ça qui fait que c'est pas glorieux. Hein, on se retrouve avec, depuis 5 ans, on a perdu deux points de productivité du travail. Et donc, c'est quand même, c'est problématique. On n'est pas, quand on regarde les chiffres, on n'est pas dans la start-up nation où grâce effectivement à une politique de soutien à l'innovation, on fait des gains fabuleux de productivité du travail. C'est pas la situation, donc c'est pas forcément glorieux. Ce qui a joué aussi, c'est le fait qu'on a repoussé l'âge de départ à la retraite et que du coup, beaucoup d'entreprises ont conservé des travailleurs seniors.
On va peut-être qu'ils le voulaient pas. Oui, mais moi je lis différemment les deux choses. L'apprentissage, c'est quelque chose qui est bon pour l'intégration sur le marché du travail. On a en France un taux d'adéquation de la formation à l'emploi qui était très mauvais historiquement. L'apprentissage permet de corriger ça, parce que c'est bien de former,
bien sûr,
mais il faut que ça serve. Effectivement, sur l'autre côté, pour les plus seniors, une partie de l'augmentation du taux d'emploi, c'est que les seniors travaillent plus longtemps. Mais on est condamné à faire ça. On vit de plus en plus longtemps dans un pays qui n'a pas préfinancé ses retraites.
Ouais. Mais le point qu'il faut voir, l'apprentissage, c'est tout à fait génial. Le problème, c'est que l'apprentissage tel qu'il s'est développé en France a profité à des bacs plus 4 et au développement de l'enseignement privé financé comme ça, ce qui est pas forcément génial. C'est pas l'apprentissage industriel à l'allemande que nous aurions souhaité.
Bon allez, on avance. On parle maintenant de ce sommet qui se tient à partir de ce soir à Bruxelles. Ouais. On va régler la question des top jobs en entérinant le choix d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission. Ça a été annoncé. Mais on imagine aussi qu'Emmanuel Macron est très attendu.
C'est évidemment la question qu'on se pose. Qu'est-ce que vont lui demander tous ses partenaires européens qui vont lui tomber dessus, qui vont lui demander de commenter? Est-ce qu'il veut faire après les législatives? Est-ce que veut faire un tel ou un tel du côté du Rassemblement National ou du Nouveau Front Populaire? Vous imaginez là?
Qui est-ce qui vient la prochaine fois?
Moi, je pense qu'ils voulaient dire
qu'est-ce qui t'a pris la prochaine fois.
Non, je dis ça parce que on a vu détaillant tous les programmes depuis maintenant une dizaine de jours, il y a tellement de points de friction potentiels demain avec Bruxelles que ça peut vite être intenable cette histoire.
Totalement.
Oui, Alors ce qui est intéressant, enfin plusieurs éléments de réponse. Ce qui est intéressant, juste avant de parler des dirigeants, de regarder la presse internationale, la presse européenne.
Alors, au sujet de la
évidemment, les Allemands sont très très critiques contre Emmanuel Macron, mais puis de toute façon, ils nous attendaient dans tous les cas de figure, même avant la dissolution au coin de la rue. Mais c'est ceux qui sont très très sévères à l'égard de Macron, c'est la presse portugaise. Et ça m'a interpellé. Et j'y vois en fait, vous savez que c'est Antonio Costa, l'ancien premier ministre, qui est pressenti pour devenir président du Conseil. Donc il y a un regain d'intérêt sur les questions européennes au Portugal, et il y a des titres de journaux très durs sur Emmanuel Macron, le sorcier, enfin le sort s'est retourné contre le sorcier, etc. Enfin bon, donc ça c'est plus pour l'anecdote. Mais en fin de compte, les dirigeants européens, ils se demandent deux choses, hein. Est-ce que en France ils vont avoir un Mario Draghi ou une Giorgia Meloni, c'est-à-dire en gros un gouvernement techno à la Draghi, parce que pas de majorité et sur lequel finalement ils auront beaucoup de pouvoir, puisque ce sera facile pour ce gouvernement qui n'aura aucun pouvoir en interne de dire je me mets dans les pas de Bruxelles et c'est Bruxelles qui dirige, ou une Meloni soft ou hard, en gros la présidente du Conseil italien qui a pris un discours très dur électoralement et largement
rentré dans le rang. Ouais. Voilà.
Dans les deux cas, Draghi ou Meloni, le bilan économique italien et le rapprochement avec l'Europe sont plutôt positifs.
Oui, non, mais j'ai toujours été très frappé par à quel point les dirigeants extrêmes rentraient dans le rang très vite.
Parce qu'il y a des garde-fous.
Enfin, je veux dire, s'il passe, ça a duré 2 mois. En Grèce,
parce qu'il y a le FMI,
Berlusconi,
l'Union européenne,
je me rappelle très bien du G20 que je couvrais comme journaliste à Cannes. Berlusconi s'est fait scotcher par Merkel et Sarkozy dans un coin, et le FMI en embuscade. Il a tout arrêté tout de suite. Enfin voilà. Donc quelque part, je pense que de toute façon, ils ont bypassé Macron maintenant, qui n'est plus pour eux un sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir maîtriser la France, et ils le feront assez bien.
Mais alors, du coup, Nicolas, est-ce qu'il y a une perte d'influence de la France sur la scène européenne?
Oui. Je crois qu'elle est ancienne. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude d'envoyer à Bruxelles des gens qui perçoivent ça comme une punition. On n'est pas les meilleurs. On n'est pas les meilleurs en création de coalition. Regardez Emmanuel Macron. Et son deuxième mandat, il s'est fait élire sans faire campagne, et il a zappé l'étape clé qui était de faire une coalition, parce que tous les sondages montraient que ça allait être très difficile de législative. Ce qu'on n'a pas fait à Paris, on ne sait pas le faire à Bruxelles. On s'est beaucoup positionné en moralisateur. À toute une série d'époques, quand l'extrême droite était élue. Et bon, et voilà, donc là, je suis d'accord avec Cyril. La question, c'est est-ce qu'on aura Mélanie soft ou hard, ou une forme de Draghi? Soit dit en passant, le bilan économique de Draghi, il n'est pas toujours parfait. Hein.
C'est vrai.
Ça ressemble étrangement au bilan économique qu'on connaît aujourd'hui en France.
Henri Sterdignac, Mélanie ou Draghi, ça va être quoi demain?
Bon, la perte d'influence de la France va être évidente. C'est quand même un peu tragique que sur nos députés européens, il y en a 44 qui sont dans des formations sans influence, et donc il n'y en a que 37
ça, c'est dingue.
Qui sont effectivement susceptibles d'avoir une influence. C'est quand même grave. Ensuite, on a le problème que au Conseil de l'Union européenne, c'est... les ministres désignés par Bardella, s'il devient Premier ministre, qui siège. Et on ne sait pas au Conseil européen qui vient. Est-ce que c'est Bardella ou est-ce que c'est Macron ?
Mais Henri, est-ce que c'est un manque de vision stratégique ? Parce que j'illustre ce que vous êtes en train de dire. Le groupe politique d'extrême droite de Mélanie a dépassé en nombre de sièges Renew, donc le groupe dans lequel
siège
la majorité d'Emmanuel Macron. Donc, est-ce que c'est un manque de vision stratégique de la part de la France?
Oui, c'est un manque de vision stratégique de la part de la France. Et d'autre part, on a Bardella qui a des positions tout à fait opposées à l'évolution actuelle de l'Europe, c'est-à-dire qu'il est pour une Europe des nations, il propose un référendum pour faire mettre dans la Constitution que les lois françaises sont supérieures aux règlements européens, ce qui serait totalement épouvantable. Donc il va falloir... 2-3 mois pour que ça se calme.
Enfin, on a deux discours, parce qu'on a l'Élysée qui dit que la nomination du prochain commissaire français, ça sera le choix du chef de l'État. Et Jordan Bardella, lui, de son côté, dit que ça sera l'affaire du Premier ministre.
J'ai entendu il y a une demi-heure que Macron avait nommé Breton.
Encore.
Bon, on verra.
Ah oui.
Oui. Encore. Ah. Eh oui,
donc il est fort possible que Macron ait profité à la dernière minute.
On verra.
Pour nommer Breton. Pour renommer Breton.
Qui limiterait deux minutes à peine pour dire bah, si vous allez regarder le débat Trump-Biden la nuit prochaine ou éventuellement. Est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous allez regarder quelque chose en particulier outre l'état de santé de ces messieurs ou pas? Je sais pas. Quelques secondes chacun, Cyril.
Quelque chose qui m'a marqué, qui se voit pas vraiment de notre côté, mais c'est que Trump est plutôt assez discret là dans la campagne. Oui. Fait moins de sorties. Je pense qu'il est pas mal entouré. Enfin, il se dit qu'il est pas mal entouré maintenant et bien encadré en termes de com.
Donc, mieux qu'avant, vous voulez dire.
Ouais, donc faut peut-être pas non plus s'attendre à des sorties terribles de sa part. Côté marché financier et analyste, si je puis dire, pense que de toute façon personne ne remettra, et surtout pas Trump, en cause la loi américaine de Joe Biden. En tout cas, les 80 milliards déjà dépensés pour la transition énergétique, ça donne des effets positifs sur l'économie. Donc là-dessus, c'est pas un sujet. C'est la géopolitique. Donc ça, c'est ça qui pourrait inquiéter. Et puis moi, je trouve qu'il y a un débat très intéressant aux États-Unis sur l'immobilier. Qui est une vraie préoccupation des Américains. Je le dis parce que c'est aussi pour moi un sujet majeur en Europe, dont on n'a pas du tout parlé pendant la campagne. Et là, les positions sont très divergentes et très intéressantes.
On verra. Je ne sais pas si parlons immobilier malheureusement, c'est un vrai sujet. 30 secondes chacun, Nicolas, Henri, 30 secondes.
Moi, je trouve que c'est, je vais dire des banalités, mais c'est quand même tragique que le plus grand pays du monde soit comme ça, entre les mains de deux personnes vieillissantes et...
Un peu sénile,
c'est vrai. Et que Biden a un très très bon bilan sur le plan économique. Ouais. Qu'il a fait ce qu'il fallait.
Contrairement à ce que dit Trump.
La relance, oui, d'accord.
Ouais, mais,
dire, ça devrait être un modèle pour les pays européens. Et que donc il faut espérer qu'ils s'en sortent.
Un mot, Nicolas, très vite.
Ouais, un mot de bon français. En fait, ce débat, c'est un président contre un ancien président. C'est la première fois que ça se fait aux États-Unis. En France, pas mal de monde en a rêvé. Hein. Giscard, jusqu'en 94, il croyait encore qu'il allait pouvoir revenir. Sarkozy, Hollande, on en rêvait ou on rêve. Et on a beaucoup parlé de la des législatives. Ouais. Moi, je me demande si Emmanuel Macron est pas en train de se dire si j'ai pas ce que je veux, je démissionne. Comme ça, je me représente plutôt.
Ah non, mais ça c'est inconstitutionnel. Hein.
Ah non.
Ah bah si.
Se représenter plus tard, c'est
non,
faisable.
Non, parce
plus
qu'un tard, oui, mandat commencé est un mandat compté.
Plus tard.
Ah, d'accord.
Si le mandat s'arrête, votre plus tard, il arrive plus tôt.
C'est vrai. Giscard, il a cru jusqu'en 94. Comme quoi, vous voyez, tous les espoirs sont permis. Allez, l'extra time, on est en retard, 30 secondes. Bah, Nicolas, puisque vous étiez parti, voulez-vous...
Mon coup de gueule, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Ouais. Ça fait 20 ans qu'il nous fait un rapport tous les ans et ça fait 20 ans qu'il est faux. Alors le Conseil d'orientation des retraites a dit que les retraites étaient excédentaires de 0,1% du PIB. Mais il faut regarder la méthode de calcul. Quand le Conseil d'orientation des retraites regarde l'État, il dit l'État est à l'équilibre. L'État équilibre toute une série de caisses de retraite, le régime de fonctionnaires, la RATP, la SNCF. Donc tous ces déficits compte pas pour le corps. Alors, on a refait la petite addition, et le Conseil d'orientation des retraites oublie 2 points de PIB de déficit. Ça vous explique la moitié des déficits publics.
Ils avaient soi-disant changé de patron pour...
Voilà, c'est ça, exactement.
En fait, le mode de calcul serait bon au Danemark, parce que là, on équilibre les comptes publics, ou en Suisse, ou en Islande, mais pas en France. Bon. On est en déficit depuis 1975.
Ok, d'accord. Très bien, voilà pour le
coup. Bon, Henri Sterdyniak a perdu un d'accord,
Henri,
mais
on n'a pas le temps, malheureusement.
On n'a pas le temps.
Henri,
donc
allez-y.
Eh bien, je vais faire un coup de cœur à mes collègues économistes, 300 économistes qui soutiennent le programme du Front Populaire, c'est tout à fait sympathique. Il y a 99 économistes qui soutiennent le programme de Macron, c'est tout à fait sympathique parce que ça permet le débat public. Et heureusement, parmi mes collègues, il y en a 0 qui soutiennent le programme du Rassemblement National, un programme raciste dans lequel il serait question de baisser le taux de TVA et de faire financer ça par les prestations des familles d'immigrés en France.
Voilà pour le coup de gueule d'Henri ce soir. Non, c'est un coup de cœur, qu'est-ce que je dis ? C'est plutôt un coup de cœur, en l'occurrence. Cyril, pour terminer, 30 secondes.
Moi, j'ai cherché désespérément un coup de cœur dans le climat actuel. J'ai failli vous parler des bonnes affaires à faire dans les primeurs bordelais ou de l'excellent cru de rosé. J'ai lu des articles intéressants à ce sujet récemment. Donc, avant les vacances, c'est pas mal de savoir que le rosé va pas être mauvais cette année. Finalement, très classiquement, ce petit chiffre publié par le site TEPA qui dit que les émissions de CO2 de la France ont baissé de 5,3% au premier trimestre de cette année, après 5,8% l'année dernière, grâce à l'hydraulique nucléaire notamment. Bon, bah, on n'est pas si mauvais que ça dans ce domaine-là.
Ah, bah, attendez.
moins une légère bonne nouvelle, par ailleurs avec des émissions de CO2 qui augmentent dans le monde à cause de beaucoup de forêts.
On mesure ça tous les trimestres maintenant. Ouais. Alors.
Et bien voilà, on termine sur un cocorico quand même.
L'époque est ainsi faite. Merci messieurs, Nicolas Marquez, Cyril Lachèvre, Henri Sterdignac. Merci, à très vite avec plaisir. 19h55, c'est fini pour ce soir.
Oui, c'est terminé, ça c'est la mauvaise nouvelle. C'est passé trop vite évidemment comme tous les soirs. Ceci dit, le débat est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon c'est bfmbusiness.com. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on vous retrouve demain aux manettes.
Ben, oui, on sera là demain, on verra ce que seront dit messieurs de Trump et Biden cette nuit. On racontera tout ça à 18h. Rendez-vous pour de nouvelles aventures. Frédéric Simotel, Tech & Co dans un instant. Et nous on se retrouve demain. Bonne soirée.
À demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.